Chapitre 14. Le sac de pommes de terre. Pendant que M. Darzac, sur les conseils de Rouletabille, s'employait avec Bernier à faire disparaître les traces du drame, la dame en noir, qui avait hâtivement changé de toilette, s'empressa de gagner l'appartement de son père avant qu'elle courût le risque de rencontrer quelque hôte de la Louve. Son dernier mot avait été pour nous recommander la prudence et le silence. Rouletabille nous donna congé. Il était alors 7 heures et la vie renaissait dans le château et autour du château. On entendait le chant nasillard des pêcheurs dans leurs barques. Je me jetai sur mon lit et cette fois, je m'endormis profondément, vaincu par la fatigue physique plus forte que tout. Quand je me réveillai, je restai quelques instants sur ma couche dans un doux anéantissement. Et puis tout à coup, je me dressai, me rappelant les événements de la nuit. « Ah ça, fiche tout haut, ce corps de trou est impossible !» Ainsi, c'était cela qui surnageait au-dessus du gouffre sombre de ma pensée, au-dessus de l'abîme de ma mémoire. Cette impossibilité du corps de trop, et ce sentiment que je trouvais à mon réveil, ne me fut point spécial, loin de là. Tous ceux qui eurent à intervenir, de près ou de loin, dans cet étrange drame de la tour carrée, le partageaient. Et alors que l'horreur de l'événement en lui-même, l'horreur de ce corps à l'agonie enfermé dans un sac qu'un homme emportait dans la nuit pour le jeter dans on ne savait quelle lointaine et profonde et mystérieuse tombe où il achèverait de mourir, s'apaisait, s'évanouissait dans les esprits, s'effaçait de la vision. Au contraire, l'impossibilité de ça, du corps de trop, monta, grandit, se dressa devant moi toujours plus haut et plus menaçante et plus affolante. Certains, comme Madame Edith, par exemple, qui nièrent par habitude de nier ce qu'ils ne comprenaient pas, qui nièrent les termes du problème que nous posait le destin, tel que nous les avons établis sans retour dans le chapitre précédent, durent par la suite des événements qui eurent pour théâtre le fort d'Hercule, se rendre à l'évidence de l'exactitude de ces termes. Et d'abord l'attaque. Comment l'attaque s'était-elle produite? À quel moment? Par quels travaux d'approche moraux? Quelles mines, contre-mines, tranchées, chemins ouverts, bretèches, dans le domaine de la fortification intellectuelle, ont servi l'assaillant et lui ont livré le château? Oui, dans ces conditions, où est l'attaque? Ah, que de silence! Et pourtant, il faut savoir. Rouletabille l'a dit, il faut savoir. Dans un siège aussi mystérieux, l'attaque dut être dans tout et dans rien. L'assaillant se tait et l'assaut se livre sans clameur, et l'ennemi s'approche des murailles en marchant sur ses bas. L'attaque, elle est peut-être dans tout ce qui se tait, mais elle est peut-être encore dans tout ce qui parle. Elle est dans un mot, dans un soupir, dans un souffle. Elle est dans un geste, car si elle peut être aussi dans tout ce qui se cache, elle peut être également dans tout ce qui se voit, dans tout ce qui se voit et que l'on ne voit pas. 11 heures. Où est Rouletabille? Son lit n'est pas défait. Je m'habille à la hâte et je trouve mon ami dans la baille. Il me prend sous le bras et m'entraîne dans la grande salle de la Louve. Là, je suis tout étonné de trouver, bien qu'il ne soit pas encore l'heure de déjeuner, tant de monde réuni. Monsieur et Madame Darzac sont là. Il me semble que Monsieur Arthur Rennes a une attitude extraordinairement froide. Sa poignée de main est glacée. Aussitôt que nous sommes arrivés, Madame Edith, du coin sombre où elle était nonchalamment étendue, nous salue de ces mots. « Ah, voici Monsieur Rouletabille et son ami Sinclair. Nous allons savoir ce qu'il veut. » À quoi Rouletabille répond en s'excusant de nous avoir tous fait venir à 7 heures dans la Louve. « Mais il a, affirme-t-il, une si grave communication à nous faire qu'il n'a pas voulu la retarder d'une seconde. » Le ton qu'il a pris pour nous dire cela est si sérieux que Madame Edith affecte de frissonner et simule une peur enfantine. Mais Rouletabille, que rien ne démonte, dit « Attendez, madame, pour frissonner de savoir de quoi il s'agit. J'ai à vous faire part d'une nouvelle qui n'est point gaie. » Nous nous regardâmes tous. Comme il a dit cela, j'essaye de lire sur le visage de monsieur et madame Darzac leur expression du jour. Comment leur visage se tient-il depuis la nuit dernière? Très bien, ma foi, très bien. On n'est pas plus fermés. Mais qu'as-tu donc à nous dire, Rouletabille? Parle! Il prie ceux d'entre nous qui sont restés debout de s'asseoir et enfin il commence. Il s'adresse à Madame Edith. « Et d'abord, madame, permettez-moi de vous apprendre que j'ai décidé de supprimer toute cette garde qui entourait le château d'Hercule, comme d'une seconde enceinte, que j'avais jugé nécessaire à la sécurité de monsieur et madame Darzac, et que vous aviez laissé établir, bien qu'elle vous gênât, à ma guise, avec tant de bonne grâce, et aussi, nous pouvons le dire, quelquefois avec tant de bonne humeur. » Cette directe allusion aux petites moqueries dont nous gratifiait madame Edith quand nous montions la garde fait sourire monsieur Arthur Rennes et madame Edith elle-même. Mais ni monsieur, ni madame Darzac, ni moi ne sourions, car nous nous demandons avec un commencement d'anxiété où notre ami veut en venir. Ah, vraiment, vous supprimez la garde du château, monsieur Rouletabille? Eh bien, vous m'envoyez toute réjouie, non point qu'elle m'ait jamais gênée, fait madame Edith avec une affection de gaieté, affection de peur, affection de gaieté. Je trouve madame Edith très affectée, et chose curieuse, elle me plaît beaucoup ainsi. Au contraire, elle m'a tout à fait intéressée à cause de mes goûts romanesques. Mais si je me réjouis de sa disparition, c'est qu'elle me prouve que monsieur et madame Darzac ne courent plus aucun danger. « Et c'est la vérité, madame, réplique Rouletabille, depuis cette nuit. » Monsieur Darzac ne peut retenir un mouvement brusque que je suis le seul à apercevoir. « Tant mieux !» s'écrie madame Edith, « et que le ciel en soit béni. Mais comment mon mari et moi sommes-nous les derniers à apprendre une pareille nouvelle? Il s'est donc passé cette nuit des choses intéressantes? Ce voyage de monsieur Darzac, sans doute. Monsieur Darzac n'est-il pas allé à Castellar ?» Pendant qu'elle parlait ainsi, je voyais croître l'embarras de monsieur et de madame Darzac. Monsieur Darzac, après avoir regardé sa femme, voulut placer un mot, mais Rouletabille ne le lui permit pas. « Madame, je ne sais pas où monsieur Darzac est allé cette nuit, mais il est nécessaire que vous sachiez une chose. C'est la raison pour laquelle monsieur et madame Darzac ne courent plus aucun danger. Votre mari, madame, vous a mise au courant des affreux drames du Glandier et du rôle criminel qu'il joua. » Frédéric Larsan, oui, monsieur, je sais tout cela. Vous savez également, par conséquent, que nous ne faisions si bonne garde ici autour de monsieur et madame Darzac que parce que nous avions vu réapparaître ce personnage. Parfaitement. Eh bien, monsieur et madame Darzac ne courent plus aucun danger parce que ce personnage ne réapparaîtra plus. Qu'est-il devenu? Il est mort. Quand? Cette nuit. Et comment est-il mort cette nuit? On l'a tué, madame. Et où l'a-t-on tué? Dans la tour carrée. Nous nous levâmes tous à cette déclaration dans une agitation bien compréhensible. Monsieur et madame Rennes, stupéfaits de ce qu'ils apprenaient, monsieur et madame Darzac et moi, effarés de ce que Rouletabille n'avait pas hésité à le leur apprendre. « Dans la tour carrée ? » s'écria madame Edith. « Et qui est-ce qui l'a tué ?»« Monsieur Robert Darzac, » fit Rouletabille, et il pria tout le monde de se rasseoir. Chose étonnante, nous nous rassîmes comme si dans un moment pareil, nous n'avions pas autre chose à faire qu'à obéir à ce gamin. Mais presque aussitôt, madame Edith se releva, et prenant les mains de monsieur Darzac, elle lui dit avec une force, une exaltation véritable cette fois-ci. Décidément, aurais-je mal jugé madame Edith en la trouvant affectée. « Bravo, monsieur Robert! All right, you are a gentleman !» Et elle se retourna vers son mari en s'écriant « Ah, voilà un homme! Il est digne d'être aimé !» Alors elle fit des compliments exagérés, mais c'était peut-être dans sa nature, après tout, d'exagérer ainsi toute chose, à madame Darzac. Elle lui promit une amitié indestructible. Elle déclara qu'elle et son mari étaient tout prêts, dans une circonstance aussi difficile, à les seconder, elle et monsieur Darzac, qu'on pouvait compter sur leurs ailes, leur dévouement, et qu'ils étaient prêts à attester tout ce que l'on voudrait devant les juges. « Justement, madame, interrompit Rouletabille, il ne s'agit point de juges et nous n'en voulons pas. Nous n'en avons pas besoin. » Larsan était mort pour tout le monde avant qu'on ne le tuât cette nuit. Eh bien, il continue à être mort, voilà tout. Nous avons pensé qu'il serait tout à fait inutile de recommencer un scandale dont monsieur et madame Darzac et le professeur Stangerson ont été beaucoup trop déjà les innocentes victimes, et nous avons compté pour cela sur votre complicité. Le drame s'est passé d'une façon si mystérieuse cette nuit que vous-même, si nous n'avions pris la précaution de vous le faire connaître, eussiez pu ne jamais le soupçonner. Mais monsieur et madame Darzac sont doués de sentiments trop élevés pour oublier ce qu'ils devaient à leur hôte en une pareille occurrence. La plus simple des politesses leur ordonnait de vous faire savoir qu'ils avaient tué quelqu'un chez vous cette nuit. Quelle que soit en effet notre quasi-certitude de pouvoir dissimuler cette fâcheuse histoire à la justice italienne, on doit toujours prévoir le cas où un incident imprévu la mettrait au courant de l'affaire. Et monsieur et madame Darzac ont assez de tact pour ne point vouloir vous faire courir le risque d'apprendre un jour par la rumeur publique ou par une descente de police un événement aussi important qui s'est passé justement sous votre toit. » Monsieur Arthur Hens, qui n'avait encore rien dit, se leva tout blême. « Frédéric Larsan est mort, » fit-il. « Eh bien, tant mieux. Nul ne s'en réjouira plus que moi. Et s'il a reçu, de la main de Monsieur Darzac, le châtiment de ses crimes, nul plus que moi n'en félicitera Monsieur Darzac. Mais j'estime, avant tout, que c'est là un acte glorieux dont Monsieur Darzac aurait tort de se cacher. Le mieux serait d'avertir la justice et sans tarder. Si elle apprend cette affaire par d'autres que par nous, voyez notre situation. Si nous nous dénonçons, nous faisons œuvre de justice. Si nous nous cachons, nous sommes des malfaiteurs. On pourra tout supposer. » À entendre M. Rennes qui parlait en bégayant, tant il était ému de cette tragique révélation, on eût dit que c'était lui qui avait tué Frédéric Larsan. Lui qui, déjà, en était accusé par la justice. Lui qui était traîné en prison. « Il faut tout dire, messieurs, il faut tout dire. » Madame Edith ajouta. « Je crois que mon mari a raison, mais avant de prendre une décision, il conviendrait de savoir comment les choses se sont passées. » Et elle s'adressa directement à monsieur et madame Darzac. Mais ceux-ci étaient encore sous le coup de la surprise que leur avait procurée Rouletabille en parlant. Rouletabille qui, le matin même, devant moi, leur promettait le silence et nous engageait tous au silence. Aussi n'eurent-ils point une parole. Ils étaient comme en pierre dans leur fauteuil. Monsieur Arthur Rennes répétait « Pourquoi nous cacher? Mais il faut le dire !» Tout à coup, le reporter sembla prendre une résolution subite. Je compris à ses yeux traversés d'un brusque éclair que quelque chose de considérable venait de se passer dans sa cervelle. Et il se pencha sur Arthur Rennes. Celui-ci avait la main droite appuyée sur une canne à bec de corbin. Le bec en était d'ivoire et joliment travaillé par un ouvrier illustre de Dieppe. Rouletabille lui prit cette canne. « Vous permettez ? » dit-il. « Je suis très amateur du travail de l'ivoire et mon ami Sinclair m'a parlé de votre canne. Je ne l'avais pas encore remarquée. Elle est en effet fort belle. C'est une figure de Lambès. Il n'y a point de meilleur ouvrier sur la côte normande. » Le jeune homme regardait la canne et ne semblait plus songer qu'à la canne. Il la mania si bien qu'elle lui échappa des mains et vint tomber devant madame Darzac. Je me précipitai, la ramassai et la rendis immédiatement à M. Arthur Rennes. Rouletabille me remercia avec un regard qui me foudroya. Et avant d'être foudroyé, j'avais lu dans ce regard-là que j'étais un imbécile. Madame Edith s'était levée très énervée de l'attitude insupportable de suffisance de Rouletabille et du silence de M. et Mme Darzac. « Cher, » fit-elle à Madame Darzac, « je crois que vous êtes très fatiguée. Les émotions de cette nuit épouvantable vous ont exténué. Venez, je vous en prie, dans nos chambres, vous vous reposerez. »« Je vous demande bien pardon de vous retenir un instant encore, » Madame Edith interrompit Rouletabille, « mais ce qui me reste à dire vous intéresse particulièrement. »« Eh bien, dites, monsieur, et ne nous faites pas languir ainsi. » Elle avait raison. Rouletabille le comprit-il ? Toujours est-il qu'il racheta la lenteur de ses prolégomènes par la rapidité, la netteté, le saisissant relief avec lequel il retraça les événements de la nuit. Jamais le problème du corps de trop dans la tour carrée ne devait nous apparaître avec plus de mystérieuse horreur. Madame Edith en était tout réellement, je dis réellement, ma foi, frissonnante. Quant à Arthur Rennes, il avait mis le bout de bec de sa canne dans sa bouche et il répétait avec un flegme tout américain, mais avec une conviction impressionnante. « C'est une histoire du diable. C'est une histoire du diable. L'histoire du corps de trop est une histoire du diable. » Mais disant cela, il regardait le bout de la bottine de Madame Darzac qui dépassait un peu le bord de sa robe. À ce moment-là seulement, la conversation devint à peu près générale. Mais c'était moins une conversation qu'une suite ou qu'un mélange d'interjections, d'indignations, de plaintes, de soupirs et de condoléances, aussi de demandes d'explications sur les conditions d'arrivée possible du corps de trop, explications qui n'expliquaient rien et ne faisaient qu'augmenter la confusion générale. On parla aussi de l'horrible sortie du corps de trop dans le sac de pommes de terre, et Madame Edith, à ce propos, réédita l'expression de son admiration pour le gentleman héroïque qu'était M. Robert Darzac. Rouletabille, lui, ne daigna point laisser tomber un mot dans tout ce gâchis de paroles. Visiblement, il méprisait cette manifestation verbale du désarroi des esprits, manifestation qu'il supportait avec l'air d'un professeur qui accorde quelques minutes de récréation à des élèves qui ont été bien sages. C'était là un de ses airs qui ne me plaisait pas et que je lui reprochais quelquefois, sans succès d'ailleurs, car Rouletabille a toujours pris les airs qu'il a voulu. Enfin, il jugea sans doute que la récréation avait assez duré, car il demanda brusquement à Madame Edith. « Eh bien, Madame Edith, pensez-vous toujours qu'il faille avertir la police ?»« Je ne le pense plus que jamais, » répondit-elle. « Ce que nous serions impuissants à découvrir, elle le découvrira certainement, elle. » Cette allusion voulue à l'impuissance intellectuelle de mon ami laissa celui-ci parfaitement indifférent. « Et je vous avouerai même une chose, monsieur Rouletabille, » ajouta-t-elle, « c'est que je trouve qu'on aurait pu l'avertir plus tôt, la justice. Cela vous eût évité quelques longues heures de garde et des nuits d'insomnie qui n'ont en somme servi à rien, puisqu'elles n'ont pas empêché celui que vous redoutiez tant de pénétrer dans la place. » Rouletabille s'assit, domptant une émotion vive qui le faisait presque trembler, et d'un geste qu'il voulait rendre évidemment inconscient, s'empara à nouveau de la canne que M. Arthur Rance venait de poser contre le bras de son fauteuil. Je me disais, qu'est-ce qu'il veut faire de cette canne? Cette fois-ci, je n'y toucherai plus, je m'en garderai bien. Jouant avec la canne, il répondit à Madame Edith qui venait de l'attaquer d'une façon aussi vive, presque cruelle. « Madame Edith, vous avez tort de prétendre que toutes les précautions que j'avais prises pour la sécurité de monsieur et madame Darzac ont été inutiles. Si elles m'ont permis de constater la présence inexplicable d'un corps de trop, elles m'ont également permis de constater l'absence peut-être moins inexplicable d'un corps de moins. » Nous nous regardâmes tous encore, les uns cherchant à comprendre, les autres redoutant déjà de comprendre. « Eh bien, » répliqua Madame Edith, « dans ces conditions, vous allez voir qu'il ne va plus y avoir de mystère du tout et que tout va s'arranger. » Et elle ajouta dans la langue bizarre de mon ami afin de s'en moquer. « Un corps de trop d'un côté, un corps de moins de l'autre, tout est pour le mieux. » « Oui, fit Rouletabille, c'est bien ce qui est affreux, car ce corps de moins arrive tout à fait à temps pour nous expliquer le corps de trop, madame. Maintenant, madame, sachez que ce corps de moins et le corps de votre oncle, Monsieur Bob. » Le vieux Bob ? S'écria-t-elle. Le vieux Bob a disparu ? Et nous criâmes tous avec elle. Le vieux Bob ? Le vieux Bob a disparu ? Hélas, fit Rouletabille. Et il laissa tomber la canne. Mais la nouvelle de la disparition du vieux Bob avait tellement saisi les Runs et les Darzac que nous ne portâmes aucune attention à cette canne qui tombait. Mon cher Sinclair, soyez donc assez aimable pour ramasser cette canne, dit Rouletabille. Ma foi, je l'ai ramassée, cependant que Rouletabille ne daignait même pas me dire merci et que Madame Edith, bondissant tout à coup comme une lionne sur M. Robert Darzac qui opéra un mouvement de recul très accentué, poussa une clameur sauvage. « Vous avez tué mon oncle ?» Son mari et moi-même eurent de la peine à la maintenir et à la calmer. D'un côté, nous lui affirmions que ce n'était pas une raison parce que son oncle avait momentanément disparu pour qu'il eût disparu dans le sac tragique. Et de l'autre, nous reprochions à Rouletabille la brutalité avec laquelle il venait de nous faire apparaître une opinion qui, au surplus, ne pouvait encore être, dans son esprit inquiet, qu'une bien tremblante hypothèse. Et nous ajoutâmes en suppliant Madame Edith de nous écouter que cette hypothèse ne pouvait en aucune façon être considérée par Madame Edith comme une injure, attendu qu'elle n'était possible qu'en admettant la supercherie d'un larcin qui aurait pris la place de son respectable oncle. Mais elle ordonna à son mari de se taire, et me toisant du haut en bas, elle me dit « Monsieur Sinclair, j'espère fermement même que mon oncle n'a disparu que pour bientôt réapparaître. S'il en était autrement, je vous accuserais d'être le complice du plus lâche des crimes. Quant à vous, monsieur, » elle s'était retournée vers Rouletabille, « l'idée même que vous avez pu avoir de confondre un larcin avec un vieux Bob me défend à jamais de vous serrer la main, et j'espère que vous aurez le tact de me débarrasser bientôt de votre présence. » « Madame, » répliqua Rouletabille en s'inclinant très bas, « j'allais justement vous demander la permission de prendre congé de votre grâce. J'ai un court voyage de 24 heures à faire. Dans 24 heures, je serai de retour et prêt à vous aider dans les difficultés qui pourraient surgir à la suite de la disparition de votre respectable oncle. Si dans 24 heures mon oncle n'est pas revenu, je déposerai une plainte entre les mains de la justice italienne, monsieur. » « C'est une bonne justice, madame. Mais avant d'y avoir recours, je vous conseillerais de questionner tous les domestiques en qui vous pourriez avoir quelque confiance, notamment Matoni. Avez-vous confiance, madame, en Matoni ? Oui, monsieur, j'ai confiance en Matoni. Eh bien, madame, questionnez-le, questionnez-le. Ah, avant mon départ, permettez-moi de vous laisser cet excellent et historique livre. » Et Rouletabille tira un livre de sa poche. « Qu'est-ce que cela encore ? demanda Madame Edith, superbement dédaigneuse. « Ça, madame, c'est un ouvrage de Monsieur Albert Bataille, un exemplaire de ses causes criminelles et mondaines, dans lequel je vous conseille de lire les aventures, déguisements, travestissements, tromperies d'un illustre bandit dont le vrai nom est Ballmeyer. » Rouletabille ignorait que j'avais déjà conté pendant 2 heures les histoires extraordinaires de Ballmeyer à Madame Rantz. « Après cette lecture, continua-t-il, il vous sera loisible de vous demander si l'astuce criminelle d'un pareil individu aurait trouvé des difficultés insurmontables à se présenter devant vos yeux sous l'aspect d'un oncle que vos yeux n'auraient point vu depuis 4 ans. Car il y avait 4 ans, madame, que vos yeux n'avaient point vu monsieur le vieux Bob quand vous avez trouvé ce respectable oncle au sein des pampas de la Rocanie. Quant au souvenir de monsieur Arthur Rennes qui vous accompagnait, ils étaient beaucoup plus lointains et beaucoup plus susceptibles d'être trompés que vos souvenirs et votre cœur de nièce. Je vous en conjure à genoux, madame, ne nous fâchons pas. La situation pour nous tous n'a jamais été aussi grave. Restons unis. Vous me dites de partir. Je pars, mais je reviendrai, car s'il fallait tout de même s'arrêter à l'abominable hypothèse de Larsan ayant pris la place de monsieur le vieux Bob, il nous resterait à chercher monsieur le vieux Bob lui-même, auquel cas je serai, madame, à votre disposition et toujours votre humble et très obéissant serviteur. » À ce moment, comme Madame Edith prenait une attitude de reine de comédie outragée, Rouletabille se tourna vers Arthur Rennes et lui dit « Il faut agréer, monsieur Arthur Rennes, pour tout ce qui vient de se passer, toutes mes excuses, et je compte bien sur le loyal gentleman que vous êtes pour les faire agréer à Madame Arthur Rennes. En somme, vous me reprochez la rapidité avec laquelle j'ai exposé mon hypothèse, mais veuillez vous en souvenir, monsieur, que Madame Edith, il y a un instant encore, me reprochait ma lenteur. » Mais Arthur Rennes ne l'écoutait déjà plus. Il avait pris le bras de sa femme et tous deux se disposaient à quitter la pièce quand la porte s'ouvrit et le garçon d'écurie, Walter, le fidèle serviteur du vieux Bob, fit irruption au milieu de nous. Il était dans un état de saleté surprenant, entièrement recouvert de boue et les vêtements arrachés. Son visage en sueur, sur lequel se plaquaient les mèches de ses cheveux en désordre, reflétait une colère mêlée d'effroi qui nous fit craindre tout de suite quelque nouveau malheur. Enfin, il avait à la main une loque infâme qu'il jeta sur la table. Cette toile repoussante, maculée de larges taches d'un brun rougeâtre, n'était autre, nous le devinâmes immédiatement en reculant d'horreur, que le sac qui avait servi à emporter le corps de trop. De sa voix rauque avec des gestes farouches, Walter baragouinait déjà 1000 choses dans son incompréhensible anglais et nous nous demandions tous, à l'exception d'Arthur Rennes et de Madame Edith, « Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit ?» Et Arthur Rennes l'interrompit de temps en temps, cependant que l'autre nous montrait des poings menaçants et regardait Robert Darzac avec des yeux de fou. Un instant, nous crûmes même qu'il allait s'élancer, mais un geste de Madame Edith l'arrêta net. Et Arthur Rennes traduisit pour nous. Il dit que ce matin, il a remarqué des taches de sang dans la charrette anglaise et que Toby était très fatigué de sa course de nuit. Cela l'a intrigué tellement qu'il a résolu tout de suite d'en parler au vieux Bob. Mais il l'a cherché en vain. Alors pris d'un sinistre pressentiment, il a suivi à la piste le voyage de nuit de la charrette anglaise, ce qui lui était assez facile à cause de l'humidité du chemin et de l'écartement exceptionnel des roues. C'est ainsi qu'il est parvenu jusqu'à une crevasse du vieux Castillon dans laquelle il est descendu, persuadé qu'il y trouverait le corps de son maître. Mais il n'en a rapporté que ce sac vide qui a peut-être contenu le cadavre du vieux Bob, et maintenant, revenu en toute hâte dans une carriole de paysan, il réclame son maître, demande si on l'a vu et accuse Robert Darzac d'assassinat si on ne le lui montre pas. Nous étions tous consternés, mais à notre grand étonnement, Madame Edith reconquit la première son sang-froid. Elle calma Walter en quelques mots, lui promit qu'elle lui montrerait tout à l'heure son vieux Bob en excellente santé et le congédia. Et elle dit à Rouletabille « Vous avez 24 heures, monsieur, pour que mon oncle revienne. » « Merci, madame, » fit Rouletabille, « mais s'il ne revient pas, c'est moi qui ai raison. »« Mais enfin, où peut-il être ? » s'écria-t-elle. « Je ne pourrai point vous le dire, madame, maintenant qu'il n'est plus dans le sac. » Madame Edith lui jeta un regard foudroyant et nous quitta, suivi de son mari. Aussitôt, Robert Darzac nous montra toute sa stupéfaction de l'histoire du sac. Il avait jeté le sac à l'abîme et le sac en revenait tout seul. Quant à Rouletabille, il nous dit « Larsan n'est pas mort, soyez-en sûr. Jamais la situation n'a été aussi effroyable. Il faut que je m'en aille. Je n'ai pas une minute à perdre. 24 heures. Dans 24 heures, je serai ici. Mais jurez-moi, jurez-moi tous deux de ne point quitter ce château. Jurez-moi, monsieur Darzac, que vous veillerez sur madame Darzac, que vous lui défendrez, même par la force si c'est nécessaire, toute sortie. Ah, et puis, il ne faut plus que vous habitiez la tour carrée. Non, il ne le faut plus. À l'étage où habite monsieur Stangerson, il y a 2 chambres libres. Il faut les prendre. C'est nécessaire. Sinclair, vous veillerez à ce déménagement-là. Aussitôt mon départ, ne plus remettre les pieds dans la tour carrée, hein, ni les uns, ni les autres. Adieu. Ah, tenez, laissez-moi vous embrasser, tous les trois. Il nous serra dans ses bras. Monsieur Darzac d'abord, puis moi. Et puis, en tombant sur le sein de la dame en noir, il éclata en sanglots. Toute cette attitude de Rouletabille, malgré la gravité des événements, m'apparaissait incompréhensible. Hélas, combien je devais la trouver naturelle plus tard.